Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là, très heureuse de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre qui réunit Hélène Gaudy et Julia Deck. Bienvenue à toutes les deux. Nous allons évoquer vos derniers livres respectifs, Archipel, publié chez L'Olivier pour vous Hélène, et Anne d'Angleterre, paru au Seuil pour vous Julia. Je vous présente en quelques mots. Hélène, vous êtes passée par l'École supérieure des arts déco de Strasbourg. Votre premier livre, c'était « Vue sur la mer », c'était en 2006. Suivront notamment, peut-être que vous connaissez ces livres, « Une île, une forteresse »,« Un monde sans rivage »,« Villa Zamir ». Vous faites partie du collectif « Inculte », du comité de rédaction d'une belle revue qui s'appelle « La moitié du fourbi ». Et vous enseignez aussi dans le master création littéraire de Paris 8. Alors, Archipel, c'est un récit sur votre père et même un peu avec votre père. On en reparlera. Votre père qui n'a pas de souvenirs d'enfance, dit-il, dont vous ignorez les paysages qui ont fait sa vie et qui possède un atelier où il fait mémoire des autres, à défaut de faire vraiment la sienne. C'est un glaneur. Ce livre, c'est une enquête obstinée, qui finit bien sûr par vous poser des questions à vous. C'est une enquête qui vous fait remonter le temps jusqu'à notamment la Seconde Guerre mondiale. On retrouve votre passion pour les paysages, pour l'image, pour les traces, celles qui sont là, celles qui manquent. Et aussi votre goût, bien sûr, pour l'enquête. Julia, vous êtes née à Paris d'un père français, d'une mère britannique. Vous êtes passée par des études de lettres. Votre premier livre, c'était en 2012, Viviane Elisabeth Fauville, chez Minuit. On suivit plusieurs romans que vous connaissez aussi peut-être. Propriété privée, par exemple, en 2019. Monument national, plus récemment encore, toujours chez Minuit. Et dans Anne d'Angleterre, vous évoquez votre mère, victime d'un accident cérébral en avril 2022. Vous allez en fait entrelacer deux récits, celui de cet accident et de ses suites, de la prise en charge de votre mère par les services hospitaliers, de sa survie miraculeuse et de l'espoir d'une convalescence, ce qui vous fait beaucoup batailler. On en reparlera. Donc il y a ce récit. Et il y a un autre récit qui est celui de vos origines familiales anglaises, d'une famille ouvrière. Et donc, vous allez retracer la vie d'Anne. Sauf que, écrivez-vous, dans l'agencement de notre lignée, les pièces s'emboîtent mal. Et une phrase que vous avez souvent répétée va soudain porter un sens vertigineux. Et une enquête va donc s'imposer. Et je ne manquerai pas de préciser l'humour présent dans ce livre, qui est parfois une façon de respirer, peut-être. Alors, je voulais commencer avec vos démarches, avec ce qui déclenche ces enquêtes. Julia, votre livre commence en fait par une fin, celle d'une vie qui allait de soi. Et cette fin existait en fait comme une hantise, la hantise de la mort de votre mère. Et ce grave accident va provoquer en fait une autre hantise, une autre urgence, il me semble, qui est celle de ne pas avoir le temps de tirer au clair ce secret qui semble tout d'un coup surgir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce début, sur cette double bascule qui ouvre ce livre ?
Oui, mais c'est ce que vous avez dit. C'est une urgence immédiate qui fait qu'un sujet qui était pour moi constamment présent, c'est-à-dire cette interrogation sur l'origine familiale, tout d'un coup, j'ai eu peur de ne pas pouvoir la résoudre. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si je la résolvais, je la résoudrais. il faudrait que je me débrouille toute seule. Parce que, comme vous l'avez dit, la survie de ma mère est tout à fait miraculeuse, mais on sait que dans des accidents graves comme ça, il y a très souvent des séquelles importantes et l'accès à la parole, l'accès à la mémoire est très entravé. Donc il y a eu cette urgence et il y a eu cette nécessité de faire autrement qui font que je me suis embarquée dans quelque chose qui n'était pas une décision finalement mûri de longue date, surtout sur un terrain que je m'étais interdit jusque-là. Pour moi, le roman, c'était dans le domaine de la fiction. Je ne peux pas dire pure, parce qu'on importe toujours toutes sortes d'expériences, d'anecdotes vécues ou rapportées, mais pour moi, la fiction, c'était dans un domaine relativement préservée du réel. Et je me tenais à cette conception assez farouchement. Et puis finalement, l'accident a été très brutal et il y a une deuxième brutalité qui a été la prise en charge où je me suis rendu compte de l'état de certains services hospitaliers, notamment les services vers lesquels sont orientées les personnes qui présentent un très mauvais pronostic vital ou de récupération. Et bon, je connaissais évidemment la situation de l'hôpital public, mais je n'avais pas conscience qu'on en était à un tel état de dénuement. Donc là, il y avait une brutalité de la prise en charge ou en fait de l'absence de prise en charge, parce que c'est des services où on ne fait pas grand-chose par manque de moyens. Il me semblait que c'était important que le livre ait cet aspect documentaire d'une réalité que j'avais lue dans les journaux, mais qui en fait rendait pas du tout compte de ce qui se joue effectivement en fait à l'hôpital pendant un séjour longue durée où le temps est suspendu comme ça entre la vie et la mort. Et mais évidemment qu'il se passe des choses affectives extrêmement fortes, même quand on accompagne un proche extrêmement diminué. Donc je voulais rendre compte de cette expérience qui a duré en fait 6 mois, qui était réellement, c'était toute une histoire, parce qu'on est arrivé un jour et je savais bien qu'il fallait qu'on en sortirait un jour, mais je ne savais pas dans quelles conditions et pour aller vers quoi. Donc ce récit-là s'est imposé très vite, enchâssé avec le récit biographique de ma mère depuis 1937, depuis cette région industrielle du nord de l'Angleterre où elle a grandi, où elle est née avant la Seconde Guerre mondiale, et à travers toutes les époques qu'elle a traversées, et tous les pays, toutes les époques, toute l'évolution des idées depuis cette période-là.
Merci. On va reparler de la construction et de l'alternance de ces deux récits. Je voulais interroger aussi Hélène sur le commencement de ce livre. Votre livre, vous, Hélène, commence par une île. C'est elle qui vous pousse à, je cite, « prendre rendez-vous avec votre père ». Ce qui a déjà des conséquences, puisque ça brise entre guillemets deux couples, le couple de vos parents et le couple que vous formiez avec votre mère jusque-là. Ce face-à-face, il est déjà singulier. Vous employez ce mot d'urgence, et là c'est une charge, bien sûr, le mot a moins de charge que celle dont on parle avec Julia. Mais il y a aussi cette phrase, vous dites, il était temps, ce rendez-vous, il était temps. Est-ce que vous pouvez vous aussi nous raconter comment l'enquête se met en marche et il était temps de quoi ?
Merci. Alors, je pense qu'il y a des urgences qui se manifestent d'un coup par des formes de coïncidence aussi. C'est-à-dire que la réelle urgence, en réalité, c'est l'âge de mon père, qui a 86 ans, et voilà, qui m'a toujours dit qu'il avait peu de souvenirs, peu de mémoire. Donc, il ne perd pas la mémoire, mais on va dire qu'il n'en a, il l'a toujours revendiqué, ne jamais en avoir. Et c'est vrai que jusque-là, je m'étais contentée du peu que je savais de lui, et puis surtout de la vie qu'on avait vécue ensemble quand j'étais enfant. Et à un moment donné, il y a eu une urgence, comme ça, d'un coup, de me dire, mais c'est maintenant, en fait, effectivement, c'est maintenant qu'il faut que j'essaye de le rencontrer autrement que par la manière dont on s'est jusque-là rencontré, c'est-à-dire comme un père et une fille, mais aussi avec beaucoup de petits agacements ou de choses qu'on ignorait l'un de l'autre et avec lesquelles on s'arrangeait très bien, avec effectivement ma mère qui faisait un peu l'interprète entre les deux. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu la découverte de cette île qui a été vraiment le déclencheur, mais qui est un déclencheur lointain, vraiment une espèce de coïncidence géographique. Découvrir une île qui porte le nom de mon père et qui va être la première île à sombrer du fait de la montée des eaux. Au départ, j'ai voulu écrire sur cette île parce que j'aime beaucoup écrire sur les lieux et ce lieu m'avait frappée. Et puis la coïncidence me semblait belle sans forcément penser à l'explorer tout de suite. Je me suis dit, tiens, une île qui disparaît, qui a le prénom de mon père, ça me fait envie. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la vraie urgence et ce que je voulais vraiment élucider, c'était sa personnalité, son passé, ce qu'il avait pu être avant d'être mon père et surtout ce qu'il est aussi en plus d'être mon père. Voilà, je pense que quand on est l'enfant de quelqu'un, on a aussi des lunettes déformantes qui nous font voir une facette de cette personne. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment un désir assez obsessionnel de me dire c'est maintenant qu'il faut essayer de le connaître autrement.
Alors, qui dit enquête dit forcément archives, recherche de toutes sortes de traces pour construire ces récits. Julia, en comparaison avec Hélène, on va en parler après, vous faites avec peu, j'ai l'impression. Il y a cette phrase que vous regardez, je vous cite, comme un objet terrifiant et miraculeux, que vous scrutez comme ça. On a l'impression que vous scrutez un animal ou une plante. C'est un très beau passage du livre. Il y a bien sûr vos souvenirs. Et ensuite, vous nous dites qu'il y a peu de documents personnels que vous retrouvez, ou plutôt il y en a qui ont disparu, que vous avez un jour vu, mais qui ont disparu. Ce qui va vous amener aussi peut-être à cerner d'autres traces qui seraient les lectures de votre mère. Et là, ce sont des traces qui portent une forme d'ambiguïté. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce matériau, ces lacunes, ces ambiguïtés? Comment vous avez manœuvré?
Oui, alors pour être un peu plus clair sur cette phrase sans tout raconter... Moi, je n'ai pas vraiment eu accès à ma famille anglaise, sinon par l'intermédiaire de ma mère, parce que je suis née à Paris quand ma mère avait 37 ans et elle avait laissé derrière elle son milieu social, son pays, sa langue, pour se créer, s'inventer une autre vie dans un pays choisi. J'allais en vacances en Angleterre un mois par an, mais il y avait déjà cette difficulté de la langue, difficulté liée au fait que en fait, j'ai appris le français avec une mère anglaise, donc une langue un peu flottante, et je n'ai eu accès à l'anglais que par procuration ou finalement très tard. Et pour moi, cette famille, elle est toujours restée étrangère. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une familiarité liée à l'enfance, mais il y a une étrangeté qui persiste, même maintenant que je me suis acharnée à bien parler l'anglais. Il y a des choses bizarres dans notre généalogie. Il y a des décalages d'âge très importants entre les sœurs, les filles, qui peuvent arriver. Pour X raisons. Et moi, je me suis quand même toujours interrogée sur la manière dont tout ça s'agençait. Et quelques années avant l'accident, alors que je pensais tout à fait à autre chose, j'étais pas en Angleterre, j'étais dans un paysage qui ressemblait à l'Angleterre, j'étais en Bretagne, et je laissais dériver mes pensées. Et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de flash. Alors, j'ai un peu de mal à utiliser cette expression parce que je ne suis vraiment pas du tout sujette à ce genre de choses. Je ne donne absolument pas dans l'ésotérisme. Enfin, c'est vraiment un domaine qui ne m'est pas familier. Mais tout d'un coup, j'ai eu une espèce de... Je ne sais pas comment appeler ça autrement. J'ai eu une espèce de révélation qui expliquait tout ce qui me paraissait bizarre, étrange dans notre famille anglaise. Et à partir de là, il y a eu un questionnement très précis. J'ai essayé de poser des questions à ma mère et en fait, plus à chaque fois que j'approchais du sujet, elle l'évitait. Donc, et moi, j'ai pas eu le courage de poser les questions non plus de manière très franche. Je me disais que j'aurais toujours le temps d'élucider cette question. Je me disais surtout qu'il existait des documents liés à l'enfance de ma mère. Il y avait des journaux intimes qu'elle m'avait montrés quand j'étais adolescente. Ces journaux d'adolescence à elle. Je savais qu'il y avait des lettres, je savais qu'il y avait un certain nombre de choses auxquelles je pourrais avoir accès un jour. Et tout d'un coup, ma mère ayant eu cet accident, j'ai dû prendre en charge tout. La vie administrative, à commencer par la vie administrative. Donc il fallait bien fouiller dans ses papiers. Et il y avait aussi j'avais aussi accès aux documents personnels. Donc j'ai regardé parce que j'avais besoin d'avoir une forme de réponse et je me suis aperçue qu'elle avait détruit beaucoup de choses. Et ça m'a paru vraiment très violent parce qu'il y avait des documents très précieux, ces journaux d'une jeune fille rangée des années 50, enfin ils étaient merveilleux, je me souviens de les avoir lus avec émerveillement quand j'avais 15 ou 16 ans, et qu'elle ait détruit ça, que moi je m'attendais à retrouver j'avais l'idée qu'il pourrait y avoir une preuve dans ces journaux, j'avais l'idée qu'il pourrait y avoir une preuve dans les lettres, et tout ça avait disparu. Donc, évidemment, ça n'a fait que conforter mes ce qu'on peut dire soupçons. mes hypothèses, ou mon hypothèse. Mais je n'avais plus accès à ces documents, donc j'ai fait avec la fiction. J'ai fait avec tous ces romans que ma mère m'a transmis, parce que c'était une grande lectrice de romans, avec une passion pour le roman criminel, le roman à suspense, mais aussi les grands romanciers du 19e, où il y avait toujours une propension au suspense, en vérité, à découvrir des choses cachées. Donc j'ai relu ces livres, j'ai cherché des indices à travers les livres, et de façon assez miraculeuse, je pense que ça, de livre en livre et de film en film, parce qu'elle me parlait aussi beaucoup de cinéma, je pense que ça m'a conduite à une forme de vérité, ouais. Je peux pas tout dire non plus.
Non, surtout pas. Je vous suis. Hélène, vous, c'est l'inverse, j'ai l'impression. Enfin, vous faites avec beaucoup. Alors, il y a d'abord, bien sûr, cette absence de souvenirs d'enfance de votre père. Il y a aussi vos silences partagés, vous en parliez un petit peu. Mais après, il y a quand même cet atelier qui est, il faut que vous nous le décriviez, qui est rempli de toutes sortes d'objets, qui est tellement rempli que vous dites qu'il vous apparaît comme impossible, en fait, à explorer. Alors là, je ne parlerai pas des livres, mais il y a là des traces écrites qui sont elles aussi très nombreuses, c'est-à-dire des carnets, des lettres et des milliers de poèmes. Est-ce que vous pouvez évoquer cet atelier, puis ce creux et ce trop-plein, en fait ?
Oui, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un creux de la parole, comme vous le dites, et des monticules construits. Et c'est vrai que ces monticules-là, je ne les avais jamais tellement regardés. C'est-à-dire que j'avais un peu essayé de faire parler mon père, quand même, à certains moments de ma vie. Ça ne marchait pas trop. Et d'un coup, dans cette espèce d'urgence, et de c'est vrai que quand on commence à écrire un livre, souvent, il y a plein de choses qui s'agencent. Alors, pas forcément autour d'un secret, mais en tout cas autour d'une forme de mystère. Et puis, d'un coup, on a l'impression qu'il y a des espèces de signes. Et l'île dont j'ai parlé en était un, qui viennent s'imbriquer et qui nous donnent envie d'aller voir quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, je ne regarde pas au bon endroit. J'essaie de le faire parler, alors que son portrait, il est là, dans tout ce qu'il a lui-même construit, dans tout ce qu'il a gardé, choisi de garder, dans tout ce qu'il a écrit, ce qu'il a peint, parce qu'il a peint aussi. Il se trouve que mon père ne peut plus aller dans son atelier parce qu'il est trop âgé et trop fatigué maintenant. Donc en plus, c'est un lieu qui n'est plus du tout vu par personne. C'est vraiment Moi, j'ai une grande fascination aussi pour les musées vides, par exemple, pour tous ces endroits qui sont faits pour être vus quand personne les voit. Et l'envie, c'était aussi d'aller allumer la lumière tout simplement dans cet atelier, de prendre le relais aussi de mon père, alors pas dans l'accumulation, mais dans le regard, et de me dire, je vais essayer de regarder ce qu'il a mis des années à garder. Alors, c'est vrai que c'est une multitude, parce que donc c'est une assez petite pièce, mais qui est vraiment remplie du sol au plafond de tout un tas de choses tout à fait hétéroclites, donc aussi bien des masques africains que des éditions originales des surréalistes. Donc il y a beaucoup de livres aussi, des assemblages qu'il créait avec des bouts de bois, des tickets de métro, des montagnes d'outils agricoles qui montent jusqu'au plafond. Enfin voilà, des tas de choses tout à fait... voilà, diverses. Mais le point commun, on va dire, de ces choses-là, il m'a semblé, c'est que c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, une forme de mémoire des autres. Donc c'est assez rarement des objets personnels. C'est des choses qu'il va glaner. Il m'avait dit un jour, je ne me souviens pas forcément de pourquoi, de l'histoire de tel ou tel objet, mais je les ai gardés parce qu'ils m'ont frappé. Donc il y a vraiment cette idée d'être frappé par quelque chose et de le faire sans aucune hiérarchie de valeur. Parce qu'il garde aussi bien des bouts de ficelle, par exemple les bouts de ficelle que les facteurs laissent dans les cages d'escalier, et lui il les garde et puis il en fait des immenses bobines de bouts de ficelle. Et ce qui m'émeut beaucoup dans cette démarche-là, c'est le fait de vouloir que rien ne se perde, y compris, et d'autant plus les choses qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire les choses que d'autres gens jetteraient parce que ça ne sert à rien, lui c'est justement parce que ça ne sert à rien et que les autres ne s'en occupent pas qu'il va avoir envie de les garder. Et donc il y a ça, et puis il y a la manière dont il les assemble, parce que c'est vrai que c'est pas le bazar non plus, hein, c'est très bien ordonné tout ça. Dès qu'on prend quelque chose, tout s'écroule, parce que justement c'est un agencement très savant. Et donc je me disais aussi, dans la manière dont il fait voisiner tous ces objets les uns avec les autres, bon là on revient un peu à l'idée de l'enquête et puis des signes qui sont assemblés, je dis, il y a un message, il y a quelque chose qui l'essaye enfin, en tout cas qu'il exprime, peut-être pas à destination de quelqu'un, mais en tout cas qu'il exprime avec sa façon de faire. Voilà, donc j'ai essayé. L'ambition du début, c'était vraiment de prendre objet par objet et puis d'essayer de raconter son histoire, des histoires à travers ces objets. Finalement, il y avait tellement... à un tel point trop de choses que je me suis contentée de une forme de hasard aussi, quoi, de tirer des cartes un peu au hasard, et puis d'essayer de voir ce que ça dit aussi à notre corps défendant. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre de Julia, c'est l'idée que ce qu'on écrit, ce qu'on garde, ce qu'on dit des choses auxquelles on peut être aveugle assez longtemps, en fait, sauf à certains moments où effectivement les choses s'assemblent et là on a l'impression que les énigmes s'éclairent pour parfois retourner dans l'obscurité peu après d'ailleurs, mais voilà. Et puis il y a les écrits aussi, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses, vous voyez, c'est déjà très long à énumérer. Mais
peut-être sur la question des écrits, vous vous êtes posé la question de, parce que vous les citez en fait, on a des extraits de journaux, on a des extraits de lettres. C'est vrai qu'à la fin du livre, quand vous évoquez le fait que vos parents vous donnent leur correspondance avant votre naissance, donc, et là même moi je me suis dit mais non, mais ça va pas, il faut pas ouvrir ça. Quelle question ça vous a posé, question de les citer, de citer ces écrits textuellement?
Oui, oui, bien sûr. Alors, il y avait une envie de respecter leur intimité aussi. Bon, déjà dans le livre, et puis même, effectivement, pour moi-même, hein, je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas lire sur ce qui a suscité notre propre existence. C'est assez vertigineux. Donc, j'ai lu le début de leur correspondance, par exemple, et puis je me suis arrêtée à un certain moment quand j'ai senti que, bon, bah, là, vraiment, ça leur appartenait. Mon père m'a étonnamment confié tout ça avec beaucoup de confiance. Je dis étonnamment parce que donc, c'est quelqu'un quand même de très discret, qui n'a jamais cherché à publier ce qu'il écrit, qui n'aimait pas du tout montrer ses peintures, enfin, qui aime vraiment faire les choses dans l'ombre. Mais là, je pense que comme il aime beaucoup les livres et qu'il a une grande confiance dans l'écriture, il m'a donné tout le matériau dont je pouvais avoir besoin. Et ce que j'ai gardé, il me semble que c'est pas tant des choses intimes au sens de propre à une seule personne ou qui serait qui contiendrait des révélations sur qui il est. C'est plutôt des choses qui disent aussi beaucoup sur une époque, sur une manière d'habiter des lieux, sur une manière de grandir aussi, qui finalement me renvoyait à ma propre adolescence, à ma propre jeunesse, et qui, à mon avis, peuvent trouver des échos aussi dans d'autres vies. Donc ce que je cherchais, c'était pas tant la révélation sur lui, qui il est lui ou qui ils sont eux comme couple, mais plutôt voilà, d'assembler des signes qui font écho avec d'autres.
Je voulais revenir à deux aspects particuliers de vos livres qui peut-être se rejoignent un petit peu. Julia, pour reparler de la construction du livre, quand vous nous racontez la prise en charge de votre mère, ce qui se passe à l'hôpital, le suivi, les soins, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée quand j'ai repris le livre, c'est à quel point le langage, la communication est malmenée. Il y a plein d'exemples de ça. Alors, bien sûr, d'abord, il y a le fait qu'il est très difficile de communiquer avec votre mère. Mais au-delà de ça, la communication avec le personnel soignant est extrêmement rude. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ça? Parce qu'il me semble que ça fait partie vraiment de l'expérience que vous avez vécue pendant tous ces mois. Comment on se parle, comment on ne vous parle pas, d'être toujours dans les questionnements, par exemple. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Oui, je crois qu'il y a un grand désarroi de la parole parce que moi, j'avais évidemment beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas forcément les réponses, hein, ou pas une réponse très, très enthousiasmante du point de vue de la prise en charge de la santé. Et évidemment que le personnel soignant est le premier à souffrir des conditions dans lesquelles il travaille, mais... Ouais, ce que j'ai trouvé terrible, c'est qu'on ne pouvait pas se parler. Chacun, moi, je posais des questions et puis on m'évitait parce que je posais des questions auxquelles on n'avait pas les réponses ou pas de bonnes réponses. Et finalement, moi, j'aurais préféré qu'on me dise les choses de manière plus directe. C'est on ne peut rien faire, c'est pas possible, les options, c'est ça ou ça. Mais en fait, il y avait un évitement constant de la parole. Sauf dans un domaine où Très vite, on m'a demandé de prendre la situation en charge. C'est-à-dire que ma mère était hospitalisée depuis à peu près 48 heures quand on m'a parlé d'EHPAD. Et ça, c'est quand même très violent parce que la veille de l'accident, tout ça était parfaitement impensable. Enfin, ma mère était, pour son âge, et même de façon générale, en parfaite santé physique et mentale. Et on sait qu'après un choc de cette ampleur, il faut du temps pour se remettre, pour commencer à regagner un peu conscience et facultés. Et donc, on me parle d'EHPAD et on me demande quel est mon projet. Parce que c'est ce qui se produit dans bien des domaines maintenant qui étaient les prérogatives du service public. Je pense notamment à l'éducation, où comme le système ne peut plus prendre tout le monde en charge, eh ben maintenant, il faut se débrouiller avec ses propres moyens et, si nécessaire, avec le système privé. Donc moi, très vite, on m'a orientée vers... je ne savais même pas que ça existait, tout ça. Hein, mais on m'a donné la carte de visite d'une courtière, comme une courtière en immobilier, sauf qu'elle se chargeait de trouver une place disponible tout de suite dans une maison de retraite, sélectionnée, je cite, « en fonction de mes critères et de mon budget ». Donc exactement les mots que j'avais entendus quand moi-même je cherchais un appartement. Et de toute façon, j'étais prise par la situation, la nécessité, choquée. Donc, j'ai pas réagi au début, en fait. J'ai fait ce qu'on me disait. J'ai pris la carte, j'ai appelé, on m'a recommandé des établissements, je suis allée voir. Et puis, je voyais bien que c'était quand même assez aberrant de jouer l'avenir d'une personne, de la personne qui m'était la plus proche depuis toujours. Que tout ça se joue sur un coup de dé, en fait. Donc j'ai eu une espèce de sursaut de sens commun à un moment où je me suis dit, mais non, en fait, on sait bien que la dernière étape de la vie, ça peut durer très peu de temps, comme ça peut durer des années et des années et des années. Donc il n'était pas question de prendre une décision comme ça à la légère. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma seule marge de manœuvre dans ce contexte, c'était de résister au langage qu'on était en train de m'imposer. Donc ce langage de « il faut trouver un projet ». Et finalement, je ne vais pas vous dire que c'est l'histoire d'une rééducation miraculeuse, mais ça s'est quand même mieux passé que prévu, et j'ai fini par trouver un bon établissement. Mais je pense fondamentalement parce qu'à un moment... j'ai résisté à ce projet qu'on voulait à toute force me faire adopter et qui n'était pas du tout le mien. Donc il y a quelque chose de finalement très très tordu à vous mettre un projet dans le crâne, à vous mettre un projet dans la bouche, alors que ce n'est pas du tout votre désir.
Oui, d'ailleurs, en fait, les choses vont très loin quand vous comprenez que... il y a cette logique-là, entrepreneuriale, finalement, et absurde. Elle a été, en quelque sorte, intégrée aussi par le personnel soignant. Et à un moment, je crois que vous employez ce mot, de découvrir le poteau rose, quand vous comprenez qu'en fait, il faut que vous lisiez d'une certaine façon les mails que vous recevez, écriviez d'une certaine façon les mails que vous devez envoyer, mais qu'en fait, il ne faut pas comprendre ce qu'il y a à comprendre là-dedans. On dit... continue à écrire. Moi, je continue à écrire aussi. Le médecin continue à envoyer des mails qui, au début, vous inquiètent. Mais en fait, il ne faut pas le prendre comme tel. Donc, c'est vrai que c'est carrément une nouvelle langue et tout le monde n'est pas dupe, quoi.
Oui, oui. Ben, c'est sûr que ce langage, il a été complètement intériorisé parce que ce n'est pas un secret. À l'hôpital, maintenant, il faut faire tourner les lits. Hein. Il faut rester le moins de temps possible. Et le boulot des chefs de service, c'est de faire en sorte que ça tourne. Et donc, on a fait venir des consultants pour faire passer la langue de... Enfin, et les médecins sont le premier à le dire. Hein. Donc, j'ai eu des conversations extrêmement éclairantes là-dessus avec des médecins par la suite. Ils sont obligés d'adopter ce langage managérial pour atteindre leurs objectifs. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé en entreprise et que ce langage-là, je le connais. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte que finalement, essayer de tenir le plus longtemps possible pour trouver le meilleur établissement possible, c'était un travail bureaucratique, comme vous dites, c'était des échanges de mails. Et donc j'ai joué le jeu, mais j'ai joué le jeu avec une forme de désespoir ou d'ironie désespérée, parce que parce que oui, c'est pas possible de se réconcilier à l'idée que la santé se résume à ça.
Hélène, pour évoquer, alors il n'y a pas de communication du tout heurtée dans votre livre, et surtout qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous répondre, et je voulais reparler de la présence de votre père, en fait, dans le livre, parce que ce livre est singulier aussi de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il est là, votre père, il réagit, il vous parle, vous le regardez, vous pouvez lui parler, vous pouvez le regarder aussi, il s'inquiète, et puis comme c'est quelqu'un, dit-il lui-même, d'arrangeant, j'ai envie de dire, il participe pratiquement à l'enquête. Il est là, il vous aide. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Il vous fait notamment visiter l'atelier. Et j'ai l'impression que ça compte aussi pour vous de le regarder agir aussi dans ce cadre-là. Est-ce que cette présence, elle était prévu ? Est-ce que des choses vous ont surprise ? Comment ça s'est passé avec lui ?
Alors, moi, j'ai beaucoup joué avec mon père quand j'étais enfant. Enfin, il a beaucoup joué avec moi, en premier, sans doute. Ça a été sans doute le terrain sur lequel on a eu le plus de proximité. Mon père était très joueur et il est resté très enfant aussi. Il disait toujours, quand j'étais enfant, il me disait toujours « Moi, j'aurai 7 ans dans 5000 jours ». Parce que c'était une phrase que je trouvais assez énigmatique. Je ne sais pas d'où venaient les 5000 jours, mais en tout cas, il voulait sans doute dire qu'il n'avait pas encore tout à fait l'âge de raison. Et il était très à l'aise avec moi dans le jeu. Et puis après, quand j'ai grandi, je pense que la parole est devenue plus compliquée. Mais je pense que ce jeu a quand même continué par intermittence à travers les livres. Alors, comme Julia peut faire le portrait de sa mère à travers les livres qu'elle a lus, moi, j'ai essayé aussi de trouver un peu des messages dans les livres que mon père m'a prêtés. Il y en a un certain nombre qui m'ont beaucoup éclairé, beaucoup parlé. Et quand j'ai commencé à écrire sur lui, je me suis rendu compte que c'était une manière de renouer avec ce vieux jeu de l'enfance aussi, c'est-à-dire de trouver un terrain d'entente entre nous qui ne soit pas celui de la parole, mais qui soit quand même un endroit, je ne sais pas comment le définir, peut-être plus profond ou un peu plus souterrain, voilà, que la parole, mais qui nous réunit mieux que la parole. Et du coup, on a recommencé un peu à communiquer comme ça. Par moments, j'allais voir mes parents, déjeuner ensemble. Et puis à la fin, ils me glissaient un petit mot, un peu comme à l'école, quand on se glisse des petits mots sous la table avec des confidences. Et là, il m'avait fait des listes que je lui avais demandées. Alors je lui disais, tiens, mais fais-moi une liste de tous les lieux où tu as vécu, d'un certain nombre de choses comme ça que je lui demandais de faire. Et en fait, il jouait beaucoup plus le jeu comme ça, un peu par écrit, un peu plutôt que si on avait été dans la conversation. Mon père m'a toujours dit, mais moi, j'ai jamais rien fait d'extraordinaire. Ma vie, elle est pas intéressante. Donc, j'arrivais pas à aller au-delà de ça en discutant. Par contre, là, il s'est effectivement pris au jeu. Et puis, petit à petit, j'ai voulu lui faire lire ce que j'écrivais pour voir si ça pouvait lui rendre des souvenirs. Alors, c'est un peu utopique et un peu... c'est une entreprise un peu casse-gueule, puisqu'on sait très bien qu'on réécrit toujours les souvenirs des autres et que c'est forcément mon interprétation. Mais quand même, je me disais, puisque l'écriture, c'est un terrain commun entre nous, puisque c'est un terrain qui le touche à un endroit quand même plus profond que la parole, peut-être que de lire ses souvenirs écrits, ça va lui en redonner d'autres. Et effectivement, donc il écrivait dans la marge du manuscrit, si je me trompais, il me disait que je me trompais, ce qui arrivait assez rarement, parce qu'il était très respectueux, donc il me disait pas trop que je me trompais, mais par contre, des fois, il écrivait, ah oui, puis ça me fait penser à ça, ou bah tiens, après, il s'est passé ci, etc. Et moi, petit à petit, je faisais grossir mon texte en le truffant des choses que mon père venait y apporter. Donc oui, ça a été important dès le début. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il était là pour m'accompagner encore et que j'avais cette chance-là pour m'accompagner dans cette entreprise et que j'étais pas toute seule, justement, avec tous ces objets et que l'idée, c'était aussi de renouer un dialogue. Alors non pas qu'il n'y ait pas eu de dialogue entre nous, mais en tout cas une autre sorte de dialogue, et donc j'avais vraiment envie qu'il participe au texte, et c'est ce qui s'est produit.
Dans chacun de vos livres, il y a des retours dans le passé. Julia, vous en parliez, ce récit biographique de votre vie, vous remontez même à l'enfance de votre grand-mère, je crois que ça commence un tout petit peu avant, et c'est vraiment un récit vraiment passionnant sur la situation, en tout cas, que votre famille vivait, dans laquelle votre mère a grandi. et notamment la description de la classe ouvrière. D'ailleurs, vous en distinguez deux, peut-être que vous pourrez nous raconter qu'il n'en a pas qu'une. Donc revenir peut-être là-dessus, sur cette singularité-là, cette petite distinction-là, et un autre lieu où vous vous retrouvez aussi avec peut-être votre mère et même votre grand-mère, c'est quand même l'amour des livres. Il y a des... si on reparle de votre grand-mère, peut-être parler de la façon dont elle était happée par les livres dédiés à l'Antiquité qu'elle aimait énormément. Et après, vous dites vous-même qu'avec votre mère, l'endroit que vous partagez, c'était les livres. C'est là où vous la rejoignez.
Oui, c'est vrai. L'histoire commence un peu avant 1937. Ça commence... ma grand-mère était née en 10. Donc ça retrace un peu le milieu où elle a grandi. L'Angleterre, ça reste une société extrêmement hiérarchisée et qui le revendique. C'est-à-dire qu'il y a la haute société, la classe moyenne et la classe ouvrière. Et on revendique fièrement toujours son appartenance à l'une de ces classes. Et à l'intérieur des classes, il y a des sous-catégories parce qu'on peut être dans chacune très haut ou très bas. Et là encore, ça fait l'objet de ramifications extrêmement précises et tout le monde est toujours très attaché à définir dans quel endroit il se situe, à quel niveau de l'échelle sociale il se situe exactement. Dans la classe ouvrière, grosso modo, il y a la classe ouvrière travailleuse qui ne boit pas, qui ne passe pas toutes ses soirées au pub et qui ne se livre pas à des débordements sur la voie publique et qui progresse socialement grâce à son travail. Et il y a l'autre partie de la classe ouvrière qui, évidemment, fait le contraire de tout ça. Ma famille se revendiquait comme issue de la première et la plus valeureuse à ses propres yeux catégorie. Et ma grand-mère, qui n'avait pas fait d'études, notamment parce que son père s'y opposait, il n'était pas correct qu'une femme travaille. C'était l'argent. L'argent devait... c'est le mari qui devait rapporter l'argent à la maison. Donc l'épouse ne pouvait pas travailler. Et ma grand-mère, qui avait la possibilité de devenir institutrice, son père s'y est opposé. Donc elle est restée à la maison à faire du raccommodage et toutes sortes de choses auxquelles les femmes étaient apparemment destinées à ses yeux. Et ce qui l'a pas pu empêcher, c'est sa passion pour les livres. Alors elle est devenue réellement une intellectuelle. Elle avait lu les philosophes de l'Antiquité, les historiens de l'Antiquité, et elle a continué à se nourrir des livres jusqu'à la fin de sa vie. Les études qu'elle n'a pas pu faire, elle a encouragé coûte ce que coûte ses filles à les faire. Et elle avait deux filles et finalement ma mère est la seule à être allée à l'université, à avoir quitté ce milieu, cette région et avoir vécu une vie à laquelle elle n'était pas du tout destinée, enfin à échapper à sa condition. En dehors de ça, je ne peux pas dire que les liens étaient faciles entre les mères et les filles. Et moi, je ne voudrais pas du tout donner l'impression que ce livre est l'histoire d'une relation absolument idyllique entre ma mère et moi. Elle a été très, très compliquée, souvent, notre relation, notamment à cause de cette étrangeté que j'ai toujours perçue, qu'à un moment, j'ai associée au fait que ma mère était étrangère, mais qui, en réalité, va bien au-delà de là. Au-delà de ça. Et le point où on se rassemblait, le point où on communiquait et le point où on communiait même, c'était les livres. À partir du moment où on a pu partager les livres avec ma mère, tout d'un coup, il y avait un lien qui se faisait naturellement, en tout cas dans ce domaine-là. Et je pense que finalement, c'était la transmission principale qu'il y avait eu entre sa mère à elle et elle-même. Ouais.
Hélène, il y a un retour aussi dans le passé, dans votre livre, à la faveur d'une autre figure familiale qui est le père de votre père, et qui prend une certaine place quand même dans ce livre, et a raison, puisque en fait, on peut dire que vous trouvez une clé en vous penchant sur votre grand-père. Puisque tout simplement, ça vous fait remonter là à l'enfance de votre père. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette figure ? Est-ce que finalement vous découvrez, c'est-à-dire que si l'enfance de votre père ne s'est jamais terminée, c'est que quelque chose chez votre grand-père ne s'était jamais terminé non plus. Ou alors on en dit peut-être trop, je ne sais pas. Je vous laisse dire ce que vous, répondre ce que vous voulez.
Non, j'avais l'envie dès le départ aussi de remonter vers l'enfance de mon père, parce qu'effectivement, je me disais, quelqu'un qui reste aussi enfantin quelque part, il y a forcément quelque chose qu'il n'a pas, comme vous le dites, terminé, ou en tout cas quelque chose à chercher dans cette enfance, de laquelle je savais évidemment très peu de choses, puisqu'il m'avait toujours dit qu'il n'en avait pas de souvenirs. Donc mon père est né en 38, donc il a été petit enfant pendant la guerre. Mes grands-parents étaient tous les deux résistants, et mon grand-père était un chef de réseau, donc il avait un grade assez important dans la résistance. Donc tout ça, je le savais, parce que c'était des choses qui sont publiques et qu'on savait dans la famille, mais je savais pas du tout ce que ça avait impliqué, ni comment il l'avait vécu, ni où, ni, enfin, tout ça était très très flou. Donc là, je me suis aussi servi pas mal de documents cette fois-ci pour comprendre ce qui s'était passé. Et donc j'ai découvert surtout ce qu'avait pu être l'enfance de mon père, qui était une enfance complètement clandestine, puisque donc étant enfant de deux parents résistants, il ne pouvait jamais se confier, jamais même dire où il habitait, jamais raconter sa vie. On lui interdisait donc de parler de lui, ce qu'il a gardé, je pense, et d'une certaine manière aussi de se souvenir, parce qu'il y avait quand même l'idée que rien ne devait s'imprimer, quoi. Tout devait être très volatile pour qu'il n'y ait jamais de preuves, en fait, de ce qui se produisait. Donc j'ai cherché dans cette enfance, j'ai cherché les lieux de cette enfance, et puis du jour où j'ai forcément aussi retracé un peu le parcours de mes grands-parents. Mon grand-père était quelqu'un de très difficile, avec qui on avait des relations très difficiles, de très enfermé dans une forme de paranoïa, et qui lui aussi avait le goût de la collection, mais alors chez lui c'était beaucoup moins fantaisiste et créatif que chez mon père. Chez lui c'était vraiment des enfermements, un enfermement dans des murs de papier et de babioles. La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, il était littéralement enfoui, vraiment sous des tas qui montaient jusqu'au plafond. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais il y a une histoire d'évasion qui a été très importante, de l'évasion d'un camp qui a été très importante dans son histoire. Et ce rapport entre l'évasion et l'enfermement, pour moi, a beaucoup dirigé sa vie. Mais c'est vrai que se rendre compte de ce qu'a pu faire un membre de notre famille et de ce que ça laisse aussi, de ce que ça fabrique aussi, de se construire pendant une période comme celle de la guerre. Bon, évidemment, en tant qu'enfant pour mon père, mais aussi en tant que jeune homme, jeune père de famille et jeune mère de famille pour mes grands-parents, c'est aussi des choses dont on ne sort pas, quoi, et en tout cas dont eux ne sont jamais vraiment sortis.
Je voulais reparler de la question de la fiction. Julia, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous parliez de documentaire, de fiction, que vous étiez une romancière affirmée, revendiquée. J'ai l'impression que cette question, elle commence le livre et elle le termine un petit peu aussi, puisqu'il y a une scène assez drôle avec des universitaires où vous, la romancière, tout d'un coup, vous affirmez qu'en fait, le roman, ça cache des choses et que c'est l'autobiographie serait plus à même, finalement, de dire la vérité. En tout cas, j'ai l'impression que
C'est un questionnement. Je ne pense pas que je l'affirme.
D'accord. En tout cas, c'est mis en question, on va dire. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous parlez de vos livres à vous et vous laissez entendre, finalement, qui sont des romans, et qui porte, en fait, qui vous parlez, on a l'impression que vous êtes une autrice de livres d'anticipation, vous le dites un peu, dans le sens où vous les relisez aussi à la lumière de ce qui se passe, et il y a peut-être aussi des clés dedans, c'est ce que vous vous dites. Est-ce que vous pouvez nous reparler de ce que la fiction peut, finalement, si on fait une mise au point pour aujourd'hui sur ce questionnement-là. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très présent dans votre livre.
Oui, alors je ne parle pas de mes livres précédents uniquement pour le plaisir de parler de mes livres. Mais comme je retrace la biographie de ma mère, j'arrive en 1974, et donc ça c'est l'année de ma naissance. Donc à partir de 1974, je suis bien obligée de parler de mon entrée en scène dans sa vie à elle. Je retrace à partir de ce moment-là notre vie jusqu'à maintenant. Il y a eu un moment très important de notre relation, c'est quand j'ai publié mon premier livre. J'avais 38 ans, donc j'avais déjà une vie adulte derrière moi. Et là, il y a vraiment eu une nouvelle étape de notre vie commune, j'ai envie de dire, c'est qu'elle était tout d'un coup, elle qui était vraiment dure par moments, tout d'un coup, elle éprouvait une fierté incommensurable. Donc elle a accompagné la sortie de chacun de mes livres, elle collectionnait tous les articles de presse, elle me parlait de tout ce qu'on lui avait répété sur le livre, enfin vraiment il y avait elle était extrêmement fière de tout ça. Et donc je retrace la sortie de chaque livre, mais dans mon rapport à elle. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je me suis rendu compte à quel point il y avait des signes annonciateurs dans chaque livre. Alors, simplement des petites choses qui après s'étaient réalisées ou qui m'avaient orienté dans telle direction, où il y avait vraiment une espèce de coïncidence assez vertigineuse entre soit le livre que je venais de faire et l'avenir, ou parfois un éclairage sur le passé. Et ça, c'était des choses qui n'étaient pas du tout conscientes. Donc ça revient à ce que tu disais au début, c'est que en fait, le livre, il dit plus que ce qu'on croit dire. On croit écrire une histoire, mais en fait, on révèle beaucoup de choses de son inconscient, de sa mémoire inconsciente. Donc il y avait une forme de surgissement du passé et de l'avenir dans chacun de ces romans qui pourtant se situaient dans le cadre de la fiction pure, hein, où je le croyais. Et à partir de là, bah, finalement, je l'ai assumé pour chercher dans mes livres la solution au problème que j'avais à ce moment-là. Donc finalement, me dire que puisqu'il y a des signes prophétiques dans les livres, il suffit d'apprendre à les décoder pour trouver une réponse, estimée que par exemple, dans Monument National, qui se situe dans un décor bien particulier dans un parc, à un moment, j'ai eu le choix entre deux maisons de retraite. Et bien, j'ai choisi celle qui ressemblait le plus au décor de mon dernier livre paru, qui était Monument National. Donc finalement, c'est anecdotique ce que je raconte là, mais pour moi, c'est vraiment révélateur de la manière dont la fiction et le réel s'imbriquent en permanence. Il n'y a pas de frontière étanche. Bien sûr, on peut dire les faits sont vrais ou pas vrais, mais c'est pas des domaines qui se contemplent en parallèle. Il y a sans arrêt des croisements, quoi.
Oui, peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que il y a des choses qui sont présentes dans les deux livres. C'est cette idée que quand aussi on mène une enquête, quand on cherche quelque chose, deux choses peuvent se passer, c'est-à-dire on peut voir des signes partout. Tout nous confirme que ce qu'on est en train de découvrir, eh bien c'est la réalité. Et il y a l'envers de ça qui est que, en fait, le mystère se redouble. On trouve quelque chose et, en fait, ça rend les choses plus opaques. Je crois que vous parlez d'accumulation de preuves et de non-preuves et de non-pièces à conviction. Donc j'ai l'impression que vos romans, ils traversent aussi ces sentiments-là, en fait. Je ne sais pas si vous voulez remontir sur ces deux expériences.
Oui, mais là, on entre dans le domaine de la réalité, en fait. C'est-à-dire que moi, je cherchais vraiment des preuves. Les preuves ayant disparu, il fallait en trouver d'autres manières. Et ça m'a finalement conduit à poser des questions à des proches et à avoir pour partie des réponses. Mais ce cheminement-là, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas fait ce long détour par la fiction, parce que en fait ça brûlait trop, c'était trop lourd de conséquences, et il fallait une manière suffisamment, je dirais pas confortable, mais pas trop inconfortable pour arriver à poser des questions aux gens, parce que finalement c'est le plus terrible, c'est d'interroger ses proches. Finalement, on a tous cette expérience que c'est beaucoup plus facile de se livrer à des inconnus parfois que d'aller poser une question extrêmement simple à quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance.
Peut-être une dernière question à vous, Hélène, avant de vous laisser la parole pour vos questions ou vos remarques à vous. On parlait de l'atelier, de votre père, on parlait de votre grand-père aussi, de son appartement. Il faut quand même qu'on ajoute que ce sont deux hommes qui ont adoré voyager. Et là, il y a une contradiction très, très belle, et vous essayez d'ailleurs de donner un sens à ce geste-là qu'ils ont aimé faire. C'était un geste très très fort pour chacun d'eux. Alors, je ne sais pas de quel ordre, d'une forme de libération. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous reparler de ces voyages qui sont quand même très très présents aussi dans votre récit?
Oui, c'est vrai qu'il y avait un grand goût des voyages, que moi j'ai un grand goût aussi des paysages, et que du coup j'ai essayé de les chercher aussi à travers ces lieux qu'ils avaient traversés. J'ai eu l'impression qu'il y avait dans la volonté de voyager parfois aussi la volonté de s'oublier soi-même. Alors bon, c'est beaucoup un livre qui parle de la mémoire, mais qui parle aussi de l'oubli, du fait qu'on puisse vouloir oublier ce qui me semble que mon père a fait, et du fait, sur le fait que l'oubli aussi, ça peut être quelque chose de très fertile. Enfin, il m'a semblé me rendre compte de ça au bout d'un moment, ou désirer m'en rendre compte, peut-être qu'il y a une question de désir aussi là-dedans, mais me dire finalement, si mon père n'a pas dit ne pas avoir de souvenirs, ou en tout cas ne fait pas le récit de ses souvenirs, ses souvenirs restent une espèce de matière meuble dans laquelle il puisse sans doute la volonté d'écrire de la poésie, la rêverie, enfin tout un tas de choses qui sont aussi très, très importantes pour moi, et que parfois dans une forme d'oubli, on a aussi une espèce de matière en jachère en soi dans laquelle on peut puiser pour faire de son vécu autre chose qu'un récit articulé. Et l'idée des voyages, c'est aussi ça, c'est une forme de une façon de s'échapper aussi, enfin de voilà, d'échapper à soi, de se remplir en fait de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et petit à petit j'ai eu l'impression que c'était ça aussi que mon père m'avait transmis, puisque ce livre, c'était aussi l'envie, j'avais l'impression d'avoir des feuilles de papier calque que je superposais pour essayer de voir quel motif nous réunissait en fait, mon père, ma mère, mes grands-parents et moi, quels étaient les points de contact, et puis après les relier pour essayer de dessiner quelque chose. Et ce motif des voyages et ce motif du regard aussi, surtout, je crois que c'est quelque chose que mon père m'a vraiment transmis. Quelque part, en me disant « j'ai rien à raconter », il me disait « regarde ce qui t'entoure, quoi, regarde autour de toi ». Et il m'a transmis cette envie effectivement, d'observer, d'écrire aussi, sans doute, à la suite. Et pour moi, la question du voyage, là, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. C'était pas des voyageurs au sens de baroudeurs, etc., mais c'est plutôt, je pense, des gens qui ont eu envie de s'absorber un peu, de disparaître aussi d'une certaine manière dans le monde, quoi, dans ce qui nous entoure, et ça, j'ai eu envie de l'écrire.
Merci à toutes les deux. Je me tourne vers le public. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va circuler. N'hésitez pas.
Ne vous enfuyez pas.
Ne vous enfuyez pas. On a l'impression que j'ai fait peur à tout le monde avec ces questions. Mais c'est vous qui pouvez les poser, c'est pas nous qui vous les posons. Oui, il y a une question devant.
Pendant tous ces entretiens, c'est une question qui m'a taraudé. C'est un peu ce que vous avez évoqué à la fin, c'est votre rapport à la réalité. Et je me demandais si le travail d'écriture, chez chacune d'entre vous, c'était au départ pour comprendre des vérités, lever des voiles sur des énigmes, mais que finalement, vous étiez, par cette incapacité à la vraie communication, à comprendre vraiment tout, revenu à un travail de fiction pour vous reconstruire cette réalité et accepter de ne pas comprendre.
Moi, je pense qu'il y a énormément de besoin de reconstruire, effectivement, enfin, en ce qui me concerne. Donc, ce n'est pas un livre de fiction dans le sens où je n'invente pas des faits, mais j'ai complètement conscience de monter les choses, d'associer les choses, de tirer des fils entre des personnes qui, pour certaines, ont disparu, donc qui, évidemment, ne peuvent pas confirmer les rapprochements que je vais faire. Et je l'ai fait lire à mon père, mais je pense qu'il n'a pas non plus cherché à vérifier des faits. Donc, il m'a assez peu dit, justement, bah non, ça, c'est pas vrai, etc. Je pense qu'il a accepté le fait de devenir un personnage, en fait, et que ce personnage, quelque part, lui ressemble. Enfin, je pense qu'il s'est reconnu dans ce personnage, mais c'est pas le père avec qui je vis tous les jours. C'est quand même une autre personne, et c'est une forme de père rêvé aussi, sans doute, ou enfin, en tout cas, pas rêvé dans le sens d'idéaliser. Hein. Il est pas du tout idéalisé, ni idéal, ni idéalisé, mais en tout cas, un père inventé par sa fille, quoi, quand même, oui, oui.
Moi, je pense que l'écriture, c'est la réalité, en fait, et qu'il n'y a pas de distinction de nature. Et c'est la réalité dans la mesure où ça me dépasse. C'est-à-dire que oui, je m'embarque dans une enquête pour répondre à une question et pour résoudre un problème ponctuel, mais en fait, cette enquête, ce travail d'écriture, il me déplace. Et il a vraiment transformé les choses dans la réalité, il a transformé des choses dans ma tête, il a transformé des choses dans mes relations avec mes proches, en fait, beaucoup, plutôt en bien, je tiens à le dire. Et ce n'était pas du tout l'objectif. Et je pense que si ça avait été l'objectif, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que l'objectif conscient de l'écriture, finalement, on est toujours dépassé par son objectif conscient. Ou alors, ça ne fait pas un vrai livre, ou alors, ça fait quelque chose qui est complètement projeté d'avance, complètement prémédité, et qui reste enfermé dans certaines limites, quoi.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, vraiment, vraiment non. Bon, alors ben, je vous précise qu'il va y avoir un temps de signature. Et merci beaucoup Hélène Gaudy, merci beaucoup Julia Dac.
Merci Elodie. Merci à vous.